Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons au terme de notre parcours, de notre série sur les petits livres prophétiques, avec aujourd'hui le livre du prophète Malachi, dont le ministère se situe entre 470 et 430 environ. Le temple est rebâti et des cérémonies cultuelles y sont à nouveau célébrées. Est-ce que tout va bien pour autant? Pas vraiment, malheureusement. C'est la désillusion, la déception. La déception des deux côtés. La déception du peuple à l'égard de Dieu et la déception de Dieu à l'égard du peuple. La déception du peuple de Dieu à l'égard de Dieu transparaît dans cette question que l'on trouve au verset 2 du premier chapitre. En quoi donc nous as-tu aimés? C'est une question que le peuple pose à Dieu. En quoi donc nous as-tu aimés? Autrement formulé, tu dis que tu nous aimes, mais ça ne se voit pas. Ou encore, quel est l'intérêt, quel est l'avantage pour nous d'être aimés par toi? Regardez au verset 14 du chapitre 3. Il est bien inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous à gagner en lui obéissant? Alors, pourquoi le peuple de Dieu qui est revenu d'exil, qui a reconstruit le temple, qui y célèbre à nouveau des cérémonies cultuelles, pourquoi le peuple est-il déçu par Dieu? Pourquoi doute-t-il de l'amour de Dieu, ou plus exactement de l'intérêt pour lui d'être aimé par Dieu? Probablement parce que le contraste entre l'espoir et la réalité est grand. L'espoir du peuple était nourri par une merveilleuse vision, une vision du salut, de la restauration que l'Éternel accomplirait en faveur de son peuple au-delà de l'exil. Une merveilleuse vision transmise par les prophètes, notamment par le prophète Ésaïe. Je vous en donne juste une illustration. Ésaïe chapitre 54 et versets 11 et 12. Ô cité malheureuse, battue par la tempête, privée de réconfort. Il s'agit là de Jérusalem, dévastée. Voici ce que Dieu promet. Dans un mortier de jaspe, j'enchasserai tes pierres et je fondrai sur des saphirs. Je sertirai tes tours de créneaux en rubis, je te ferai des portes en pierre d'escarboucle et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses. Et c'est ça que le peuple espère. C'est ça que le peuple attend. Une ville glorieuse, fastueuse, resplendissante. Et la réalité, malgré tous les efforts consentis pour la reconstruction, la réalité est bien pâle à côté de cette vision grandiose. D'où la déception du peuple. Le peuple est déçu dans son attente. Il est déçu parce que Dieu ne s'est pas montré à la hauteur de ses promesses. Comment est-ce que Dieu répond à ça? Lisons ensemble les versets 2 à 5 du chapitre 1. Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. J'ai fait de ses montagnes un pays désolé et j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. Édom peut bien dire, nous avons été démolis, mais nous rebâtirons ce qui n'est plus que ruine. Mais le Seigneur des armées célestes déclare, eux, ils rebâtiront, moi, je démolirai. On appellera leur pays le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui, toujours, l'Éternel sera en colère. Et vous le verrez de vos yeux, et vous direz, l'Éternel est très grand, même au-delà du territoire d'Israël. Dans ces versets, Dieu invite le peuple qu'il s'est choisi, les descendants de Jacob, à comparer leur situation à celle d'un peuple que Dieu a écarté, les descendants d'Ésaü. Et la comparaison est sans appel. Les descendants de Jacob ont pu, parce que Dieu l'a bien voulu, ils ont pu retourner dans leur pays, reconstruire la ville de Jérusalem et son temple, tandis que les descendants d'Ésaü, les Édomites, qui ont été chassés de leur pays, n'y retourneront jamais. Le résultat de cette comparaison historique, factuelle, que Dieu invite son peuple à faire est une preuve irréfutable de son amour pour son peuple. Mais Dieu ne s'arrête pas là dans sa réponse. Lisons ensemble au chapitre 3, les versets 17 à 21. « Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens m'appartiendront et me seront précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et il n'en restera ni rameau, ni racine. Mais pour vous, cependant, vous qui me craignez, pour vous se lèvera le soleil de justice, qui portera la guérison dans ses rayons. Alors vous sortirez et vous gambaderez tout comme des veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants et ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » Dans ces versets, Dieu invite cette fois-ci son peuple à regarder vers l'avenir. Les prophéties, les visions merveilleuses de salut ne sont à l'époque de Malachie que partiellement accomplies. Elles doivent encore connaître deux étapes majeures dans leur accomplissement. La première venue de Christ, puis la seconde venue de Christ. C'est pourquoi, si à l'époque de Malachie, Jérusalem n'a pas le lustre annoncé et espéré, c'est parce que l'accomplissement complet de la prophétie d'Ésaïe que nous avons lue est encore à venir. On la retrouve d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse. On y découvre alors la nouvelle Jérusalem qui descend sur la terre. Une nouvelle Jérusalem resplendissante, glorieuse. Et, surprise, sans temple. Parce que son temple, écrit l'apôtre Jean, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Un peuple déçu par Dieu. Un Dieu qui, en réponse à la déception de son peuple, l'invite d'une part à regarder objectivement les faits, l'histoire, et l'invite d'autre part à tourner ses regards vers l'accomplissement encore à venir des promesses merveilleuses de salut, de restauration, de paix, de gloire, de joie. Qu'en est-il pour nous ? Les auteurs du Nouveau Testament affirment que nous aussi nous avons été choisis par Dieu. Nous aussi nous sommes aimés de Dieu. Et peut-être que certains d'entre nous sont déçus par Dieu. Parce que comme tous les êtres humains, nous connaissons les difficultés de la vie, le chômage, les maladies, les deuils. Et comme nous l'avions déjà évoqué, nous connaissons même des difficultés supplémentaires dues à notre foi. Alors, peut-être certains se demandent, à quoi bon être choisi par Dieu ? Aimé de Dieu, quelle différence, quel avantage ? Enfin, celles et ceux qui se posent peut-être ces questions, légitimement d'ailleurs, Dieu répond de deux manières. Regardez les faits. Regardez objectivement l'histoire. Pas simplement une situation individuelle à un moment précis, mais prenez du recul. Parce qu'en prenant ce recul, force nous est de constater que l'Église, qui est le peuple dont Dieu prend soin, malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre, malgré les persécutions qu'elle subit, l'Église subsiste à travers les siècles. Et l'Église grandit à travers les siècles. Regardez les faits. Regardez l'histoire. Regardez également vers l'avenir, vers le retour de Christ, vers le temps de l'accomplissement complet des promesses et prophéties. N'espérons pas pour aujourd'hui, pour ici et maintenant, ce qui est promis pour demain, pour les nouveaux cieux, pour la nouvelle terre. Ce sont souvent des attentes erronées, de santé physique ou de prospérité matérielle par exemple, qui vont générer nos déceptions. Alors prenons quelques instants de méditation avant de poursuivre. Est-ce que tu es déçu par Dieu? Si c'est le cas, qu'est-ce qui te déçoit chez Dieu? Est-ce que ce sont tes attentes qui ont été déçues? Est-ce que tes attentes étaient légitimes? Est-ce qu'elles étaient bien pour ici et maintenant? Est-ce qu'elles n'étaient pas plutôt pour demain, pour le temps de l'accomplissement complet des promesses et prophéties? Est-ce que les réponses données par Dieu dans ce livre du prophète Malachie, regardez objectivement les faits, l'histoire, et regardez vers l'avant, vers l'avenir, est-ce que ces réponses de Dieu pourraient venir guérir ta déception? Un peuple déçu par Dieu. Un Dieu déçu par son peuple. Dieu est déçu par l'attitude de son peuple. Il y a plusieurs aspects dans l'attitude de son peuple qui déçoivent Dieu. Il y a par exemple la partialité des prêtres qui dispensent un enseignement erroné. Chapitre 2, verset 9. « Vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. » Il y a également la traîtrise des hommes qui épousent des femmes étrangères idolâtres et qui répudient sans état d'âme leurs épouses juives, celles qu'ils ont épousées dans leur jeunesse. Chapitre 2, verset 14. « L'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahie. Elle était pourtant ta compagne avec qui tu avais conclu une alliance. » Il y a encore l'avarice du peuple, qui n'apporte pas à Dieu l'entièreté de ses dîmes et offrandes. Chapitre 3, verset 8. « Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. » La partialité des prêtres, la traîtrise des maris, l'avarice du peuple. Toutes ces attitudes déçoivent profondément Dieu. Et elles révèlent finalement une certaine légèreté de la part du peuple à l'égard de Dieu. Plus qu'une légèreté, en fait, un mépris. Un mépris du peuple pour Dieu. C'est en tout cas le regard que Dieu porte sur cette situation. Lisons ensemble, chapitre 1, les versets 6 à 11. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres, vous qui me méprisez. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? Et puis vous me demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs, et puis vous demandez, en quoi donc t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est chose méprisable. Quand, pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur, sera-t-il content de vous? Vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil? Demande le Seigneur des armées célestes. Qui, enfin, parmi vous, se décidera à fermer les portes de mon temple pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'agrée pas l'offrande de vos mains. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des peuples non israélites et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert et des offrandes pures. Car parmi ces peuples, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Fondamentalement, le peuple n'honore pas Dieu comme il le mérite. Et peut-être qu'à la racine de ce mépris du peuple pour Dieu, il y a justement ce que nous avons vu précédemment, la déception du peuple à l'égard de Dieu. Si tel est le cas, on aurait alors une sorte de spirale descendante. Le peuple est déçu par Dieu, le peuple se met à mépriser Dieu, et le peuple développe des attitudes qui déçoivent Dieu. Une terrible spirale descendante. Réfléchissons quelques instants à nos vies. Est-ce qu'il y a dans nos vies, et oui, il y en a, des attitudes qui déçoivent Dieu? Peut-être que ce sont les mêmes aspects que ceux évoqués dans ce livre, un enseignement ou des croyances erronées, faussées, une inconséquence dans la vie de couple, une mesquinerie dans les dons, les libéralités. Peut-être que ce sont d'autres aspects qui sont en cause. C'est à Dieu de nous le montrer. Ces attitudes qui sont décevantes pour Dieu révèlent peut-être, même si évidemment on s'en défendra, un certain mépris à l'égard de Dieu. En tout cas, un manque de considération pour sa personne, pour sa grandeur, pour sa renommée. Et est-ce qu'il n'y aurait pas finalement, à la racine de ces attitudes décevantes et de ce mépris pour Dieu, une déception à l'égard de Dieu? Est-ce que, déçus par Dieu, dans nos attentes, nous serions tombés dans cette spirale descendante? Là encore, c'est à Dieu de nous le montrer. Alors, donnons-lui maintenant l'occasion de le faire, en restant quelques instants à son écoute. J'aimerais conclure à présent sur ce livre du prophète Malachie en enfonçant encore un peu plus le clou concernant nos attentes à l'égard de Dieu, attentes qui sont parfois erronées, concernant notre manière de comprendre les prophéties et d'attendre leur accomplissement. Chapitre 3, verset 23. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le grand jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Celles et ceux qui attendaient la venue d'Élie en personne l'attendent toujours. Ils risquent de l'attendre encore longtemps, pour rien d'ailleurs, puisque le Nouveau Testament nous dit clairement que cette prophétie s'est déjà réalisée avec la venue de Jean-Baptiste. C'était lui, Jean-Baptiste, Élie, le nouvel Élie. Jean-Baptiste a, selon l'évangéliste Luc, accompli son ministère avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie. Pour éviter d'être déçu par Dieu et de tomber dans cette spirale descendante dont nous avons parlé, ne nous laissons pas abuser dans notre compréhension des prophéties. Ne nous laissons pas tromper dans la nature de leur accomplissement, ni dans le temps de leur accomplissement. Pour cela, nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de lire l'Écriture avec une intelligence renouvelée, illuminée par l'Esprit de Dieu. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Permets que nos attentes à ton égard soient justes. Permets que notre compréhension de tes promesses, de tes prophéties soit juste, afin que nous ne soyons pas injustement déçus par toi, au risque de te mépriser et de te décevoir. Amen.